Bonsoir, c'est un conflit qui dure, hein, celui qui vise des GAFA accusés de vouloir échapper aux impôts. Combat engagé notamment par la France, hein, qui espère bien, eh bien voir aboutir son projet de taxer les géants du net, notamment sur le chiffre d'affaires. La Commission européenne, elle, devrait révéler sa copie d'ici un mois. À voir jusqu'où ça ira. En attendant, la forteresse commence-t-elle à s'effriter après le fisc italien? C'est Amazon qui conclut un accord avec le fisc français pour, eh bien, régler de lourds arriérés d'impôts. Alors, est-ce que ça veut dire que les GAFA rentrent dans le rang? Est-ce qu'ils cèdent? Est-ce qu'ils passent enfin la caisse? Voici les décodeurs de l'écho.
L'écho s'éclaire sur BFM Business. Fabrice Lundy reçoit les décodeurs de l'écho.
Ça fait combien de temps qu'on en parle ici même dans les décodeurs de l'écho, la question de la taxation des GAFA? Est-ce qu'on va enfin arriver au bout du tunnel? On va se poser un maximum de questions et j'attends évidemment les réponses de nos experts, de nos spécialistes, de nos décodeurs de l'écho. Arnaud Ponce, délégué général de la Fondation Digital New Deal. Avec nous également la députée Bénédicte Pérol, députée de La République En Marche de l'Allier, membre de la Commission des Finances, une grande spécialiste de la fiscalité, que ce soit la fiscalité, l'optimisation fiscale ou la fraude fiscale. Avec nous également Kevin Eschraghi, analyste dans le cabinet de conseil Faber Novel, et puis Vincent Renoux, avocat fiscaliste associé du cabinet Stéline et associé. Alors, pour planter le décor et pour comprendre tout ce dont on va parler justement à l'issue, eh bien, de l'annonce qui vous avait été faite d'ailleurs sur le site de BFM Business, hein, par Jamal Eni notamment, et ça a été confirmé ce matin par Amazon, hein, cet accord donc avec le fisc français. La réaction, c'était ce matin, du ministre de l'économie, Bruno Le Maire.
Il faut qu'il y ait le plus vite possible une juste taxation des géants du numérique, de Google, d'Amazon, de Facebook, d'Apple, qui ne peuvent pas faire des bénéfices considérables en Europe sans payer des impôts en Europe ou sans payer un montant juste d'impôts en Europe. J'ai vu avec beaucoup d'intérêt l'interview qu'a donnée la commissaire européenne Margrethe Vestager ce matin dans la presse française. Elle a indiqué que les propositions que nous avions faites d'une taxation du chiffre d'affaires étaient des propositions utiles et intéressantes. Nous souhaitons que ce soit une proposition qui aille loin et nous souhaitons que ce soit une proposition qui aille vite. Il faut que d'ici 2 ans, la taxation des géants du numérique soit effective en Europe.
Alors on va essayer de savoir justement pourquoi le système est dépassé. Pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à taxer les géants du net? On verra justement si on arrivera à trouver, à voir et aboutir une réglementation commune européenne. Auparavant, ce qui s'est passé ce matin. Tiens, Vincent Renoux, avocat fiscaliste associé du cabinet Stéline et associé Les Faits. C'est un conflit vieux de 5 ans qui remonte à 2012. Hein. Amazon était visé par un redressement de presque 200 millions d'euros. Redressement fiscal notifié en 2012 pour des arriérés d'impôts portant sur la période 2006-2012. Sur quoi portait le contentieux et en quoi consiste justement, eh bien, l'accord conclu entre Amazon et Bercy?
Alors, il n'y a pas forcément des réponses à tout ça, parce que le contentieux, on ne le connaît pas, parce qu'il y a le principe du secret fiscal.
Ce qu'a bien rappelé d'ailleurs la direction des impôts ce matin.
Pour autant, on peut imaginer que c'était lié à l'activité qu'Amazon déployait en France et aux revenus qu'elle a pu y déclarer, puisque on peut imaginer qu'elle déclarait plutôt des services de support et pas vraiment son chiffre d'affaires de vente au détail depuis la France à partir de ses entrepôts logistiques.
Ouais, c'est ça. Et ça pose la question de l'allocation des recettes entre différentes juridictions étrangères où le groupe est présent. Ça signifie donc, eh bien, de séparer entre les activités commerciales françaises pures et puis ce qui est déclaré au Luxembourg, dans un pays où on connaît la fiscalité plutôt sympathique.
Voilà, tout à fait. Alors, il y a à la fois la déclaration, la présence virtuelle en France et la déclaration des revenus qui y sont attachés. Et puis, il y a également les montages qui existent au Luxembourg et qui permettent d'éviter l'impôt au Luxembourg par un montage, on en reparlera peut-être, entre le Luxembourg et les États-Unis. Quant au redressement lui-même, c'est assez classique. L'administration fiscale est entrée dans une phase de transaction. En revanche, on ne sait pas à combien l'accord s'est conclu. Et par conséquent, il y a une petite dichotomie qui se crée entre les acteurs de l'économie traditionnelle qui payent leurs impôts normalement et puis Amazon qui n'a pas déclarer grand-chose et qui va payer quelque chose, mais peut-être pas tant que ça.
Pas sur la totalité. Qu'est-ce que signifie cet accord quand même? Tiens, Bénédicte Peyrol, spécialiste des questions de fiscalité à l'Assemblée nationale, parce que quelque part, au travers de cet accord conclu entre le fisc français, il y a eu le fisc italien aussi le mois dernier, et Amazon, quelque part, on solde le passé, mais on ne s'engage pas sur l'avenir, à moins qu'on commence à esquisser ce qui se fera après, je ne sais pas. Comment vous l'interprétez, vous, cet accord?
Je pense que le ministre l'a dit clairement, et les actions qui ont commencé à être menées dans le cadre de cette législature montrent bien qu'il y a une volonté d'action. Donc, notamment, on a parlé et on parle du projet Axis, qui, il me semble, est un bon projet donc, au niveau de l'Union européenne pour harmoniser les assiettes fiscales de l'ensemble des États membres. Parce qu'aujourd'hui, on a effectivement, là je parle bien au sein de l'Union européenne, des règles qui sont différentes. Donc, au-delà de jouer entre les taux, on joue aussi entre les règles différentes entre les États membres. Donc, ce projet est un bon projet et il permettra aussi de toucher ces États-là aussi.
On va y revenir, mais sur l'affaire spécialement, donc, Amazon et le fisc français. Quelque part, on se projette sur la période 2000 en arrière, 2006-2012. Mais bon, on solde le passé. Mais voilà, c'est tout. Point à la ligne.
Ce que ça dit, effectivement, c'est que les règles sont peut-être pas adaptées, sont pas adaptées clairement. On a bien vu Google au mois de juillet 2017.
Tout juste.
Le tribunal administratif a finalement donné raison à Google.
A débouté l'administration fiscale.
Absolument. Voilà. L'État aujourd'hui fait appel.
On va rappeler Google visé par un redressement fiscal de plus d'un milliard d'euros en France. En première instance, en effet, la justice administrative a donné raison donc à Google. Google France, je cite la justice, n'a pas bénéficié de la présence d'un établissement stable en France, tant au regard de la retenue à la source que de l'impôt sur les sociétés ou de la TVA. Partant de là, il ne doit subir aucun redressement fiscal en France. Notion importante, d'ailleurs, que pointe l'OCDE.
Absolument. Et le procureur, d'ailleurs, dans cette décision, en vue de la décision qu'allait prendre le tribunal administratif, dit clairement, dans ses conclusions, que les règles, que ce cas-là, illustre le fait que nos règles ne sont plus adaptées. On était avant sur des règles, nous sommes encore sur des règles qui sont sur la matérialité, sur l'aspect physique finalement des entreprises, alors qu'aujourd'hui, on va et nous sommes dans une société complètement dématérialisée. Et c'est pour ça qu'il faut adapter nos règles nationales et internationales et européennes.
Arnaud Ponce de la Fondation Digital New Deal, quand vous entendez que Amazon et le fisc français concluent un accord, qu'est-ce que ça inspire comme remarque?
Ça va dans le bon sens, c'est-à-dire qu'on est quand même dans un momentum politique où globalement depuis des mois on voit bien qu'il y a une prise de conscience des enjeux et il y a des décisions qui vont dans un sens positif sur la régulation. Mais si on regarde un peu plus dans le détail, on se rend compte quand même qu'il y a des incohérences et qu'il y a un manque de vue politique globale. Si on regarde un petit peu les acteurs en question, une photographie rapide, le gouvernement, déjà au sein du gouvernement il y a des prises de position qui sont pas les mêmes, et au niveau européen, alors au niveau du gouvernement, on vient d'entendre le ministre Bruno Le Maire qui, comme toujours, c'est sa force, a une vision, on va dire, diplomatique de l'économie, et il fait la synthèse. Il avait, donc on vient de l'entendre à l'instant, je ne vais pas le répéter, il faut se souvenir ce qu'il avait dit au rendez-vous d'Aix, il y avait tout à l'heure Jean-Révé Lorenzi, où il avait expliqué sa prise de position sur une équité, c'est-à-dire s'assurer que les contribuables européens payent les impôts au même niveau que ces GAFA, et donc une prise de position un peu idoine. Et puis en dessous, on a quand même deux ministres qui ont des prises de parole différentes, qui sont Mounir Majoubi et Gérald Darmanin. Mounir Majoubi a depuis toujours une prise de position qui est de principe sur les enjeux de souveraineté, et ça va dans la droite ligne de ce qu'il faisait déjà en tant que président du Conseil national numérique, où il avait fait des rapports sur ce sujet. Puis on a Gérald Darmanin, qui lui a une prise de position plus comptable, en même temps il est ministre
des comptes publics,
C'est un peu logique, mais qui du coup ne règle pas le problème sur le fond. Donc on a une vision à plus long terme sur les enjeux de fond, et puis un autre ministre qui est
plus au coup par coup, parce que
qui se dit vaut mieux un bon deal qu'un mauvais procès, sauf qu'on règle pas le problème sur le fond. Et puis n'oublions pas, parce que c'est là que ça joue au niveau européen,
on en reparlera, allez-y,
et là aussi il y en a encore aussi, deux prises de parole qui sont pas tout à fait les mêmes, qui sont Pierre Moscovici et Margaret Vestager. Pierre Moscovici,
donc annonce... commissaire aux affaires économiques, c'est le français. Ouais. Madame Vestager, donc, est bien la danoise en charge de la concurrence.
Tout à fait. Et donc, Moscovici annonce qu'il va remettre un rapport fin mars, donc il est bientôt, où il annonce qu'il va avoir une prise de parole, enfin une prise de position globale, sauf qu'il annonce que ça sera à la fois un compromis et je sais plus quel terme il a utilisé, un électrochoc. Donc, c'est pas possible, c'est l'un ou l'autre. Il faut pas attendre grand chose à mon avis du rapport. et Margaret Vestager pour finir, qui est très pragmatique et qui, elle, en une ligne, pour résumer sa prise de position, est intéressante. Elle dit, voilà, les États, en créant des différences de fiscalité entre eux, créent une position de concurrence déloyale. Tout juste. Donc, veut jouer sur les États.
On va y revenir, évidemment. Vous avez bien fait aussi de planter le décor. Amazon, le fisc français, Kevin Eshraghi, Faber Novel, après l'Italie où Amazon avait déjà signé un tel accord. Pourquoi cet accord, il intervient maintenant? Il y a des faits convergents, c'est une avancée notable, justement. Petit à petit, Amazon rentre-t-il dans le rang? Et pour quelle raison, justement? Pourquoi Amazon va signer un accord transactionnel avec le fisc français? Ils étaient obligés de le faire?
J'aimerais bien avoir la réponse. Non, je pense pas qu'ils étaient obligés de le faire.
Ouais.
Je pense que vous avez utilisé le mot d'approche diplomatique de l'économie. Ça serait peut-être une interprétation intelligente du mouvement d'Amazon, de se dire que sur la dernière année, on a eu énormément de débats sur l'impact de ces géants du numérique sur nos vies, sur tous les aspects, donc que ce soit des aspects sociaux, que ce soit des aspects économiques, que ce soit des aspects éthiques, et que d'une certaine façon, ces acteurs sont à la recherche d'une image plus favorable auprès des différents, que ce soit la société civile, que ce soit le gouvernement.
Ils essaient de montrer patte blanche. Est-ce que vous les attendez?
Ils essaient de montrer
patte
blanche. D'une certaine façon, si je prenais la question différemment, c'est que pour moi, l'accord qui a été signé, c'est comment dire, la philosophie, c'est un tien vaut mieux que deux, tu l'auras. De toute façon, la déclaration d'Amazon sur laquelle il y a eu un accord, elle est biaisée. Une grosse partie de ses revenus qui viennent notamment de Amazon Web Services, qui sont le service de serveurs, de stockage, fait même pas partie de la déclaration de revenus, et c'est là-dessus qu'ils font le plus de marge. Donc de toute façon, c'est une décision qui est prise.
Attendez, ils font semblant, c'est ce que vous dites?
Ouais, ils font semblant. J'ai envie de dire que c'est vraiment pas grand-chose avec l'ampleur de leurs revenus.
Ça leur coûte rien, et accessoirement, c'est de la bonne com et de la bonne image.
Exactement.
C'est
ça. C'est peut-être une manière aussi, vis-à-vis de la Commission européenne, de montrer patte blanche et de dire on fait des deals.
Et d'ailleurs, quand on se rappelle Amazon, ce que dit Amazon, en août 2015, nous avons établi une succursale d'Amazon en France afin d'avoir la meilleure organisation possible de nos activités pour servir au mieux nos clients. Bon. C'est bien, ou il y a vraiment encore des trucs à redire sur Amazon, là?
Il y a clairement des choses à redire, et surtout les GAFA, parce qu'en réalité, on oublie, il y a un volet qui est la problématique de l'établissement stable virtuel,
oui.
Mais il y a aussi un autre volet qui est celui des montages. Et ce sont des montages artificiels, dans bien des cas.
Alors, ça, il faut nous expliquer. Est-ce que je ne voudrais pas qu'on laisse croire, vous allez reprendre la parole, Bénique Perrol, dans un instant, parce que vous, justement, vous suivez toutes ces questions d'optimisation fiscale, mais... Quand on dit Amazon, Google, etc., puis on pourrait parler d'Uber, il n'y a pas que les GAFA, justement, ne payent pas d'impôts en France. Il faut quand même préciser que ce n'est pas forcément du banditisme fiscal, de la piraterie fiscale, ce n'est pas de la fraude, c'est de l'optimisation. Alors quand je dis ça, je ne dis pas que c'est formidable, l'optimisation fiscale, mais là-dessus se double quand même d'opérations de tours de passe-passe avec des montages financiers qui permettent de mettre de l'argent aux îles Caïmans, au Luxembourg, à Singapour et je ne sais où encore.
C'est de l'optimisation, mais qui confine à l'abus de droit, en fait, à l'abus de droit fiscal, c'est-à-dire un excès d'habileté. C'est-à-dire que quand vous prenez le cas de Google, en réalité, il y a un schéma de flux de redevances qui finit par aboutir aux Bermudes, où en réalité ces redevances ne sont pas du tout imposées. Donc on dit souvent l'Irlande ne taxe pas les revenus ou a un taux d'impôt trop favorable. Mais en réalité, c'est simplement que l'Irlande a permis, par le biais de la résidence fiscale d'une société irlandaise aux Bermudes, de localiser l'intégralité de ses revenus aux Bermudes. Et il faut se rappeler qu'il y a 2600 milliards de dollars des GAFA qui sont dans les paradis fiscaux, du fait de ces montages, et qui bientôt vont être rapatriés aux États-Unis avec un impôt favorable de Trump.
Bah ça, on va en reparler. Il y a Emmanuel Le Chip qui viendra nous en parler tout à l'heure. Juste, et c'est vrai, puisque vous collaborez également à la Fondation Digital New Deal, dont le délégué général est Arnaud Ponce, parmi les pistes, vous appelez, il y a une taxe abus. La notion d'abus de droit, si Google ou un autre se fait domicile dans un paradis fiscal, c'est qu'il cherche à échapper à l'impôt, donc...
Une taxe à but, tout à fait, et c'est ce qui a été mis en place par la Grande-Bretagne, ça s'appelle la Diverted Profit Tax, et donc on propose de créer ce même type de taxe à but en France, de façon à forcer les géants du net à déclarer des revenus en France.
Bénédicte Perrol, députée de la majorité, députée de l'Allier, est-ce que les géants du net, à vos yeux, sont demandeurs que cette situation s'éclaircisse? Ou est-ce simplement de façade, quelque part? Voilà, est-ce qu'il y a de la com, quelque part, comme le disait le laissait entendre Kevin Eshraghi? Je cite Monsieur Missoff, Sébastien Missoff, le DG de Google France, qui exprimait le besoin de redéfinir les règles de la fiscalité appliquées au secteur du numérique. Est-ce qu'il y a de la sincérité dans ces initiatives Amazon, Google et autres? Et je pourrais citer, tenez, Facebook, Laurent Soli, le patron pour la France et l'Europe du Sud, hein, il y a quelques jours, qui annonçait une évolution dès cette année dans les pratiques fiscales du groupe qui devrait conduire à une hausse significative des impôts qu'il paye en France. Bon, reste à savoir sur quoi il va payer ses impôts en France.
Oui, absolument. Alors, je ne me permettrai pas de juger ou pas une sincérité. Moi, j'aimerais juste noter quelque chose qu'on n'a pas mis en avant, c'est que Amazon a... aussi avancer le fait que si la décision était défavorable, que l'État finalement redresserait, il engagerait des poursuites, qu'il ferait des recours hiérarchiques, etc. Donc
et on reviendrait un peu dans la situation de Google, quelque part.
Absolument. Et donc c'est parti, on est parti pour des années et des années. Et donc finalement, l'État français attend toujours d'avoir finalement son dû, si tant est encore une fois qu'il y en ait, puisque les règles, encore une fois, ne sont pas absolument adaptées.
Donc finalement, dans cette affaire, tout le monde sort la face haut, c'est-à-dire le fisc français, donc M. Darmanin, le gouvernement, disant regardez, on arrive à faire plier Amazon. Grâce à nous, quelque part, de l'argent va rentrer dans les caisses, même si on sait que de toute façon, c'est pas forcément l'argent qui était totalement prévu. Et puis Amazon dit, regardez, j'ai grand cœur, et finalement, regardez, je contribue moi-même, à ma part, à payer ma part d'impôt, c'est ça?
Vous savez, je pense que les Français ne sont pas dupes. Les Français ont bien conscience que c'est pas une situation qui soit absolument satisfaisante, qu'il faut que nous nous engagions, effectivement, et que ce ne soit pas uniquement des engagements, mais que ça se concrétise. Vous avez parlé de Monsieur Moscovici, qui, effectivement, a fait des annonces et a dit qu'il y aurait un rapport qui serait produit dans quelques mois, au mois de mars. Ce que j'aimerais dire, c'est qu'il y a deux étapes, en fait, dans son rapport.
Vous voulez pas qu'on parle de l'Europe tout à l'heure?
Oui,
restons là-dessus. Allez-y, Arnaud Ponce, des Digital New Deal. Quelque part, tout le monde sort gagnant de cet accord, qui est finalement factice, artificiel?
Gagnant, oui, on peut toujours voir le verre à moitié plein. C'est de l'argent qui rentre, c'est des problèmes qui se règlent, mais le verre à moitié vide, c'est qu'on ne règle pas le problème sur le fond.
Et parce qu'on a l'impression que pour l'instant, on doit compter seulement sur la bonne volonté des acteurs du numérique.
Oui,
si Amazon n'a pas, comme le disait Bénédicte tout de suite...
Tout dépend de sur quoi on se base. Et le problème de fond, c'est que les GAFA sont les plus grandes entreprises de tous les temps, d'un point de vue capitalistique, etc., mais fonctionnent toujours comme des start-up. C'est d'ailleurs tout le charme de ces magnifiques sociétés. Donc, ça veut dire quoi, être une start-up? Ça veut dire qu'on investit plus qu'on fait de revenus. Donc, ça veut dire qu'à partir de là, bon, grosso modo, on est dans une situation où on peut ne pas payer d'impôts puisqu'on n'a pas de chiffre d'affaires. Et c'est ça le problème de fond, c'est qu'on se trouve avec des mauvais outils pour des problèmes nouveaux. C'est pour ça d'ailleurs que la note qu'avait publiée Maître Renaud à la Fondation l'année dernière, qui s'appelait « Fiscalité réelle d'un monde virtuel », tout est dans le titre, c'est qu'on n'a tout simplement pas les bons outils pour ces enjeux.
Kevin Eshraghi, Faber Novel, vrai, faux, un tiers du résultat réalisé par les GAFA reste dans leur poche au lieu d'être taxé? Il y a des chiffres comme ça qui circulent. Vous avez sorti de très nombreuses dates chez Faber Novel l'ensemble.
Ouais, si un chiffre par exemple, c'est de dire que il y a un rapport qui a été publié par des députés européens néerlandais qui estimait que sur la période 2013-2015, c'est 5,4 milliards d'euros d'impôts de manque à gagner pour les pays européens, c'est 700 millions. Donc ça, c'est juste pour Google et Facebook. Après, on a Amazon, on a Apple, on en a d'autres derrière. Ce que je trouve intéressant, c'est on parlait d'abus et puis vous demandez s'ils veulent si c'est un deal honnête. C'est une des choses que je vous ai dit la première fois que je suis venu. C'était assez intéressant, je trouve. C'est sur l'histoire d'Amazon et comment ça s'est créé. Vous avez dit qu'au début des années 90, Bezos, qui est le fondateur d'Amazon, avait assisté à une procédure judiciaire dans le Dakota du Nord contre une entreprise et la procédure judiciaire avait abouti à dire que l'entreprise n'avait pas à payer d'impôts parce qu'elle avait pas de elle n'était pas localisée physiquement dans le Dakota du Nord. Elle commerçait avec le Dakota du Nord mais pas localisée physiquement, et donc Bezos a monté Amazon avec ce prémisse en disant je peux créer une entreprise qui va commercer dans tout un tas d'états aux États-Unis et puis à l'international sans pour autant avoir à payer d'impôts, avoir à payer de taxes. Et donc il s'est mis à Seattle parce que c'était pas très dense d'un point de vue démographique et donc il y avait plus d'intérêt. Donc pour moi c'est fondamentalement c'est au cœur du modèle de
ils
ces acteurs.
Ils reproduisent le modèle quelque part.
C'est ça. Quand vous prenez un Uber, vous prenez un Airbnb, vous prenez tous ces acteurs-là. Une des raisons de leur performance économique, une des raisons pour lesquelles ils arrivent à convaincre autant d'investisseurs de mettre de l'argent dans l'entreprise, c'est parce que finalement c'est un bon investissement. Tout l'argent va rester dans les caisses et il va pas sortir. Donc c'est quelque chose qui à mon avis est pas changé par un accord comme celui-là.
Ça fait partie de leur ADN quelque part.
Ouais, voilà. La France a pas convaincu Amazon de changer sa philosophie. Ça reste au cœur de leur philosophie.
Vincent Renoux, Amazon sans ça n'est plus Amazon. Uber sans ça n'est plus Uber. Quoi, c'est ça, disons.
Pour autant, on n'est pas obligé de faire des montages qui ressemblent à de l'abus de droit et qui sont fictifs. On peut faire de l'économie et commercer d'une façon tout à fait normale. Il y a beaucoup de groupes qui ont des structures de commercialisation qui sont classiques et qui sont directes. On n'est pas obligé de faire un double sandwich néerlandais. Par ailleurs, dans l'accord, ce qu'on ne sait pas, c'est, comme souvent c'est le cas, est-ce que le gouvernement a demandé à Amazon, pour les années postérieures au redressement, de mettre en place quelque chose. J'ai l'impression de ce qu'on lit que probablement Amazon s'engage à reconnaître son chiffre d'affaires correspondant à son activité détail, enfin vente, en France.
C'est-à-dire qu'en effet, cet accord, selon vous, c'est-à-dire on solde les affaires du passé, on n'est pas trop regardant, on n'est pas trop exigeant vis-à-vis d'Amazon, oui. Mais on lui dit, monsieur Amazon, en revanche, vous prenez date pour l'avenir et vous prenez des engagements pour l'avenir.
J'ai l'impression qu'il y a un volet comme cela qui fait partie de l'accord. Je ne sais pas, mais j'ai l'impression que c'est ça.
Bénic Perrault, vous n'êtes pas au cœur de Bercy, bien sûr. Vous n'êtes pas au cœur des secrets de Bercy. Probablement un jour, vous allez peut-être enquêter, vous aurez peut-être le fameux mot de l'histoire. Et c'est peut-être ce qui peut se préfigurer, notamment.
Écoutez, c'est vrai que c'est une question compliquée puisqu'on a très peu d'éléments si ce n'est ceux publiés par Amazon et les potentiels engagements qu'ils disent qu'ils vont prendre et qu'ils ont pris vis-à-vis de l'État. Et c'est très bien comme ça si effectivement on arrive à avoir des sociétés du numérique qui s'engagent à payer leurs impôts en France.
Mais est-ce qu'il n'y a pas finalement autant de GAFA, autant d'histoires, autant de problèmes différents? Il y a l'histoire d'Amazon que nous racontait Kevin Eshraghi. Mais finalement, Facebook, c'est autre chose qu'Amazon, Microsoft, Uber, Airbnb et toute la famille.
C'est bien le sujet, Apple. La complexité justement de ces entreprises du numérique, parce que il y en a certaines, ça va être leur modèle, ça va être de la publicité. Ouais. On sait que c'est des plateformes avec des différents acteurs aussi, et donc pour certains, et ben voilà, la valeur, ça va être de publier de la publicité, c'est de récupérer de la donnée.
Donc, le nombre de clics, le nombre de la collecte de données, le nombre d'adresses IP, publicité. Elle paye le chiffre d'affaires. Donc finalement, oui, d'où la difficulté et ce qui montre que le système actuel, il est insatisfaisant à tout point de vue. Hein.
Il n'arrive pas à capter la totalité de la valeur créée par ces entreprises. On arrive à capter quand même une partie de la valeur. Je pense à Amazon qui a beaucoup de centres de stockage. Mmh. Ça, aujourd'hui, avec les règles qu'on a, on arrive absolument à capter finalement une partie de la valeur. Mais encore une fois, là, la preuve de l'accord, je pense, c'est que justement, on a pris conscience qu'il y a une partie qu'on n'arrivait pas à capturer et à mettre un impôt dessus.
On voit un fisc ou des fiscs qui sont complètement désarmés. Parce que la taxation des entreprises, et vous l'avez rappelé, elle repose sur la domiciliation de leurs activités, de leurs profits. Or, les entreprises du net, elles peuvent fournir des services dans un pays A, par exemple, même si leur présence physique, elle est minimale, quelque part, ce qui limite de facto leur taxation. Et là, on est devant un mur, quelque part, une zone grise.
Exactement, parce qu'on n'a pas modernisé notre droit fiscal pour créer le concept d'établissement stable virtuel. Certains États l'ont fait tout seuls, comme par exemple Israël.
Qu'est-ce qu'ils ont fait? Donnez-nous un exemple.
Ils ont créé le concept d'établissement stable virtuel par rapport à l'idée d'une présence numérique importante. Et donc, ils ont défini dans la loi comment on reconnaît une présence numérique importante. Alors, L'OCDE travaille là-dessus
aussi.
C'est
quoi? C'est un système de critères, c'est ça?
C'est multicritères.
Parlait tout de suite tout Bénédicte Perrault, la députée.
Critères.
Et alors donc, l'argent rentre en Israël?
Ça, je ne sais pas.
Ah, vous ne savez pas encore?
Non.
Oui, Bénic Perrault.
Oui, sur ce sujet-là, l'établissement stable virtuel, effectivement, il y a des discussions à l'OCDE. Et
bien sûr,
sous
les auspices de Pascal Saint-Amand, le monsieur fiscalité
absolument,
de l'OCDE.
Absolument, absolument. Et lors de notre débat en loi de finances à la fin d'année dernière, ce sujet est venu sur la table. Il y a notamment eu un amendement de monsieur Woerth, notre président de la commission des finances, qui a déposé un amendement pour justement définir qu'on ait une... on redéfinisse l'établissement stable dans notre droit français. Cependant, Ce qu'il faut dire, c'est que nous évoluons dans un monde mondialisé. Et c'est ce que j'expliquais dans l'hémicycle. C'est-à-dire que nous pouvons très bien modifier notre définition de l'établissement stable en France. Sauf que va intervenir bien souvent une convention fiscale, parce que ces entreprises-là, elles ont des modèles internationaux, avec des filiales de partout. Et en fait, en droit fiscal international, c'est la convention fiscale qui prime. D'où ces travaux à l'OCDE et en fait la nécessité de se mettre d'accord sur une définition de l'établissement stable virtuel et que celle-ci soit intégrée à travers la convention multilatérale qui est un outil très innovant qui permette justement de capturer cette valeur.
Donc ce que vous voulez dire, c'est il vaut mieux une réglementation mondiale qui passe par l'OCDE, les différents G20, il y aura un G20 à Buenos Aires très, très prochainement, plutôt qu'une réglementation État par État ou Europe. Continent par continent?
Absolument, et c'est en cours, et ça, je crois que ça avance bien. Lors des dernières négociations BEPS, les États ne sont pas
Base
Erosion and Profit Shifting. Et là, les travaux que poursuivent l'OCDE sous la houlette de Pascal Saint-Amand, justement, sont sur ce sujet-là essentiellement et prioritairement.
Arnaud Pons ou Maître Renaud, qui prend la parole. Allez-y, Maître Renaud.
Je voudrais juste apporter une précision. Je pense qu'on peut avoir des solutions nationales qui sont possibles.
Oui.
Parce que il existe l'abus de convention, qui est prévu d'ailleurs dans la convention multilatérale. Il existe aussi la notion de bénéficiaire effectif. Et c'est un peu le pendant quand on proposait une taxe abus. C'est-à-dire qu'en effet, il y a un problème d'attraper la virtualité du commerce, de ces GAFA. Mais il y a aussi les montages dont on parle depuis tout à l'heure. Et ces montages sont abusifs. Et donc, en fait, il faut gérer aussi le côté abusif des montages en remettant en cause la fictivité de l'ensemble des montages qui sont réalisés. Et lorsqu'on remet en cause cette fictivité, alors la notion d'établissement stable virtuel peut jouer même dans un cadre national.
Ouais, Arnaud Pons, on va y arriver ou pas?
Et pour rebondir sur ce que vous disiez, oui, on va y arriver, mais c'est vrai qu'il faut avoir l'ambition de porter ça au niveau international. Et à trouver la bonne échelle, parce qu'il y a une question de moyens. C'est vrai que ces GAFA sont entourés des meilleurs avocats du monde, les plus grands cabinets performants, vous imaginez leurs moyens. Et Bercy, qui est pourtant une administration ultra performante, se bat avec un code qui date des années 50, donc forcément c'est le choc des titans, enfin c'est David contre Goliath. Et puis un problème culturel, c'est-à-dire que lié à ça, le fait que t'expliquais Kevin, c'est que c'est dans leur ADN de chercher à fuir la fiscalité. Et pour la petite anecdote, c'est-à-dire qu'avant d'aller à Seattle, Jeff Bezos avait essayé de s'installer dans une réserve indienne, parce que c'était pas très loin de San Francisco, et surtout d'un point de vue fiscal c'était encore plus léger que Seattle. Il a fini par se rabattre sur Seattle, mais pour vous montrer que c'est vraiment c'est le même original dans leur voilà.
Ouais, non, oui, Kevin, Fergie.
Ce que j'ai, c'est-à-dire que on dit on n'arrive pas à bien les comprendre, on n'arrive pas à bien les analyser, c'est pour ça qu'on arrive mal à les imposer. Le problème, c'est que c'est quelque chose qui va durer et qui va s'amplifier. Quand on regarde les différentes annonces de ces acteurs, si on prend Amazon, bon, ils ont racheté Whole Foods aux États-Unis. Bon, ça, c'est à la limite, c'est un business qui est physique, donc on va réussir à le taxer s'il vient en France. Ils ont lancé Amazon Go. Amazon Go, c'est quoi? C'est des espèces de supérettes où vous allez pouvoir rentrer et prendre des produits.
On passe même plus à la caisse.
Ouais, ce qui est intéressant dans ce modèle-là, c'est qu'en fait, l'essentiel de la valeur ajoutée, il vient du logiciel. C'est le logiciel qui est capable d'analyser les flux en magasin, les produits que vous prenez. Et donc là, avec les montages fiscaux qu'ils ont, la valeur ajoutée qu'ils vont pouvoir défendre, c'est la valeur ajoutée du logiciel, et c'est plus la valeur ajoutée du physique. Si vous prenez un autre business qu'ils sont en train de lancer, ils ont annoncé avec Berkshire Hathaway et JP Morgan le lancement d'une assurance pour l'instant réservée aux employés de ces trois entités, mais qui, on peut l'imaginer dans quelques années, va être
proposée à leurs clients,
proposée à des clients externes. Et donc ça veut dire que peu à peu, ces acteurs, ils sont en train de grignoter l'ensemble de notre économie. Et donc ça veut dire que demain, on sera capable de taxer aucune activité économique si aujourd'hui on n'arrive déjà pas à taxer le peu d'activité entre guillemets qu'ils ont.
Et vous voyez le poids pour l'économie traditionnelle.
Bah, voilà.
Du coup, tout le poids de la fiscalité repose sur une économie traditionnelle
un
qui se trouve
déclin,
de plus en plus réduite par rapport à l'économie numérique. Donc ça devient assez catastrophique.
Bon, le plus dur est à venir. On revient dans un instant. Justement, on verra quelles sont les pistes à la fois de la France, de la Commission européenne. Puis on verra également eh bien, ce qu'a inventé, trouvé Donald Trump également pour faire rentrer de l'argent dans les caisses. Ça a l'air déjà de marcher. On verra ça avec Emmanuel Le Chip qui va nous rejoindre dans un instant. Restez avec les décodeurs de l'écho sur BFM Business, à la télé et à la radio, comme on le fait tout le temps.
L'écho s'éclaire sur BFM Business. Fabrice Lundy reçoit les décodeurs de l'écho.
Bon, les GAFA passent-ils enfin à la caisse? Bon, pas sûr, hein. Franchement, eu égard à tout ce que vous nous avez raconté il y a un instant, c'est pas parce qu'il y a eu cet accord transactionnel entre le fisc français et Amazon, dont on ne connaît pas énormément eh bien, les détails, puisque au nom du secret fiscal, bon, se pose toujours la question sur comment faire payer les GAFA, les Apple, les Facebook, et puis tous les autres, les Uber, Airbnb, etc. etc. Donc, c'est extrêmement compliqué. On voit comment les différents fiscs nationaux, européens, sont complètement désarmé. On continue à en parler avec nos décodeurs de l'écho. Et nous rejoint Emmanuel Le Chip. Bonjour Emmanuel. Bonsoir Emmanuel.
Bonsoir à tous.
Éditorialiste économique à BFM Business. Juste, j'ai souhaité que vous veniez simplement parce qu'il se passe beaucoup de choses aux États-Unis depuis quelques jours et depuis notamment que Donald Trump a pu faire voter il y a quelques semaines, hein, c'est très récent, sa fameuse réforme fiscale, hein, où avant la réforme, les bénéfices échappaient totalement à l'impôt tant qu'ils restaient à l'étranger et se retrouvaient imposés à 35% quand ils revenaient aux États-Unis. Maintenant, cette réforme, elle offre aux entreprises américaines la possibilité de rapatrier les bénéfices réalisés à l'étranger à un taux entre 5,5 et 8. Et on voit donc, eh bien, les géants du net, comme Apple notamment, et qui commence à faire rentrer l'argent. Apple va payer 38 milliards de dollars d'impôts sur ses 252 milliards de dollars de bénéfices à l'étranger. Quel impact de cette réforme fiscale aux États-Unis sur les GAFA, sur les géants du net, quels qu'ils soient,
hein? Bah, il n'y a pas que les géants du net, hein. Il y a des banques comme Citigroup, par exemple, qui annoncent la même chose. Donc, au-delà des GAFA, c'est vraiment une mesure qui est destinée à faire revenir l'argent aux États-Unis, l'argent qui restait, hein. Si vous prenez Apple, on estime qu'il y a 250 milliards qui sont en dehors des États-Unis. Donc là, on a une mesure incitative puissante. C'est une mesure qui s'applique en une fois. Alors vous pouvez payer sur plusieurs années, mais c'est un one shot, c'est-à-dire c'est une mesure exceptionnelle, une grosse promo qu'on vous offre en fait si vous rapatriez une partie de vos impôts. Donc c'est plusieurs centaines de milliards de dollars qui devraient, estiment les fiscalistes américains, rentrer dans les caisses de l'État au cours des années à venir.
Qu'est-ce qui pousse ces géants du net, justement, ou ces entreprises, quelles qu'elles soient, au-delà des géants du net, à rapatrier leur argent? Est-ce que, finalement, je pousse le bouchon loin, est-ce que finalement, elles ne pourraient pas rester, tout simplement, Apple, voilà, laisser ses 250 milliards de dollars à l'étranger?
Il y a deux phénomènes majeur. Le premier, c'est que là, vous avez quand même une fenêtre historique pour profiter d'une imposition qui est quand même un moindre mal, parce que rien ne dit que si M. Trump ne fait pas, par exemple, un deuxième mandat, rien ne dit que si vous avez un président démocrate, il ne reviendra pas sur cette fiscalité. Donc là, vous avez quand même... C'est le Black Friday de la fiscalité, vous voyez. C'est vraiment une promo formidable. Donc il faut c'est sage d'en profiter, surtout que, concrètement, ça ne pénalise en rien, ça n'a d'impact en rien sur l'équilibre
financier
de ces grosses boîtes, hein, puisque quand vous avez 250 milliards dehors, vous pouvez en rapatrier 38. Et puis je crois que le deuxième phénomène aussi qui est aussi là pour le coup une vision de plus long terme, c'est que quelque part on voit bien que ces entreprises se disent de toute façon le temps du business, le temps de l'innovation, le temps de l'invention, le temps des ventes et du commercial, c'est pas le temps de la fiscalité. Et on voit bien quoi aujourd'hui? On voit que partout dans le monde, finalement, la fiscalité, les systèmes fiscaux sont en train de réagir. Et que je pense que ces GAFA se disent que de toute façon, partout, on va maintenant essayer de leur faire, pas la vie dure, mais on va essayer d'organiser la fiscalité de manière à mieux prélever les impôts.
Donc on peut anticiper.
Parce qu'en fait, il faut bien comprendre, peut-être que vous l'avez dit, j'ai pas pu écouter la première partie de l'émission, leur philosophie, elle est très simple. Ce sont pas des acharnés de l'évasion ou de l'optimisation fiscale. Ils se contentent juste d'être rationnels et de profiter au mieux des législations telles qu'elles sont aujourd'hui. Ils vous le disent très bien, Google à Paris,
Kevin
oui, de toute façon, quand les règles changeront, on paiera plus d'impôts. Mais ne nous demandez pas de devancer l'appel, de payer plus tôt. Et puis quand les règles changeront, mais c'est pas pour ça qu'on quittera la France, c'est pas pour ça que nous, Amazon, on viendra pas non plus essayer de vendre nos produits. Donc voilà, quand il faudra payer plus d'impôts, ils le paieront. Et là, ils se disent, il y a quand même une belle aubaine pour effectivement avoir une facture très allégée.
Vincent Renoux, avocat fiscaliste du cabinet Stéline et associé, ce que Trump a imaginé, c'est bon, c'est intelligent, c'est intéressant?
Alors, une chose, c'est que je ne partage pas tout à fait cette vision, c'est-à-dire que c'est le discours traditionnel des GAFA, mais en réalité, comme on le dit depuis tout à l'heure, ils ont organisé par le biais de montage artificiel l'évasion fiscale depuis l'Europe, puisque l'Europe a fait une sorte de plan Marshall à l'envers, puisqu'en fait, ouais, l'argent qui est dans les paradis fiscaux,
c'est l'Europe qui a déclenché la guerre fiscale au départ.
Comment?
C'est l'Europe qui a déclenché cette espèce de guerre fiscale au début. Encore une fois, ils ne trichent pas, hein, il faut être clair. Ils font des montages.
Ils font des montages.
Oui, mais ils ont droit, c'est légal.
Non, c'est artificiel, donc c'est de l'abus de droit.
Bah...
Simplement, on ne sait pas les poursuivre correctement. Mais quand vous faites un double Irish, excusez-moi, mais c'est pas une façon classique de faire
les
double
Irish, les montages. Voilà. Bon, on va pas rentrer dans le détail.
Et après, ce que je voudrais dire, c'est qu'un certain machiavélisme de la part des États-Unis, puisque tous les montages fiscaux des GAFA viennent de l'utilisation en fait de la propriété intellectuelle. Cette propriété intellectuelle, elle est sortie des États-Unis sans impôts. Et aujourd'hui, la boucle est bouclée, puisque finalement, les États-Unis vont récupérer l'argent de l'Europe par le biais du rapatriement des dividendes qui sont dans les paradis fiscaux. C'est quand même extraordinaire. Parce qu'en France, si vous essayez de sortir de la propriété intellectuelle d'un groupe, vous payez l'impôt sur les sociétés, sur la plus-value. Aux États-Unis, c'est sorti sans impôt.
Alors, qu'est-ce qu'on va faire en Europe et en France, notamment? Tiens, Bénédicte Pérolle, membre de la majorité députée à La République En Marche du département de l'Allier, spécialiste des questions de fiscalité. Il faut taxer ces boîtes sur le chiffre d'affaires ou le bénéfice. Bruno Le Maire aimerait... Pour l'instant, dans un premier temps, sur le chiffre d'affaires. Il va falloir nous expliquer comment.
Alors, effectivement, l'annonce qui a été faite, en fait, c'est une solution en deux, j'ai envie de dire, parce qu'en fait, il y a deux étapes. La taxation sur le chiffre d'affaires, c'est une solution court terme. Et plus long terme, c'est la solution dont je parlais tout à l'heure, qui est le projet Axis, qui a démarré en 2011, qu'on relance aujourd'hui. Et il faut qu'on soit tous d'accord, parce que vous savez qu'au niveau de l'Union européenne, c'est la règle de l'unanimité. Donc la taxation sur le chiffre d'affaires aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle une taxation sur le chiffre d'affaires à la source. C'est-à-dire qu'on va regarder ce qui part de France, finalement, pour reconstituer un chiffre d'affaires au niveau de l'Union européenne et se répartir ensuite entre États. Ce chiffre d'affaires qu'on va fixer selon un taux unique.
Combien ce taux, justement? Alors, Madame Vestager, commissaire à la concurrence, ce matin, elle disait à la question, qu'est-ce que vous pensez de la proposition française d'une taxe sur le chiffre d'affaires? Je crois que c'était en l'opinion, je suis pas sûr, mais bon, je me trompe peut-être. Proposition d'une taxe sur le chiffre d'affaires des entreprises du numérique. Elle dit c'est un bon point de départ, mais il faut décider du seuil à partir duquel les entreprises seraient taxées, justement. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce que les petites entreprises dans le numérique, faut pas non plus aussi les laisser un petit peu grossir aussi? Je parle pas de Apple et d'Amazon, je parle des petites entreprises.
C'est vrai qu'il y a un débat aujourd'hui. Alors, par exemple, sur le projet Axis, on prendrait l'assiette consolidée. Donc, c'est pour harmoniser les règles de base fiscale pour calculer la base fiscale. Concernant votre question, grosses entreprises versus petites entreprises. La difficulté aujourd'hui, ce que je voulais dire, c'est que le chiffre d'affaires aujourd'hui, le seuil, c'est 750 millions qui a été fixé pour finalement qu'on ait cette règle de base fiscale harmonisée. C'est vrai qu'il y a un débat sur l'inclusion ou pas des petites entreprises parce que ça nécessite de mettre en place une nouvelle comptabilité, des nouvelles règles. Et aujourd'hui, elles ont chaque jour davantage, même si à travers notre majorité, on essaye justement de simplifier tout ça. Mais ça impliquerait une transformation de leur comptabilité. Donc c'est quand même assez compliqué pour elles, je pense.
Je m'arrête.
Des trucs de technique, enfin je veux dire de... qui sont faits comme ça sans tenir compte de ce qu'est la réalité quand même des boîtes. On l'a vu par exemple avec la loi Sapin 2, quand il faut que les boîtes soient capables de remonter la chaîne de leurs fournisseurs et tout ça, mais la façon dont on complique la vie des PME, elle est juste hallucinante.
Bon, là, on n'est pas dans la PME.
Hein. Non, mais d'Apple, d'Amazon, mais la petite boîte, oui.
Oui, la petite. Le droit européen, est-ce qu'il permet une taxe sur le chiffre d'affaires, Vincent Renoux
Je pense qu'on a déjà.
En plus de la TVA,
C'est ce que j'allais dire. On a déjà une taxe sur le chiffre d'affaires.
Ça va être une deuxième TVA.
Ça me semble assez loufoque comme idée.
Ça passe pas.
Non, je pense pas du tout. Et puis d'abord, ce qu'on doit taxer à l'impôt sur les sociétés, c'est un bénéfice, c'est pas un chiffre d'affaires. Donc on est en train de faire un mélange des genres, qui à mon avis risque de se retourner contre ceux qui veulent taxer les GAFA, puisque on va arriver devant un mur et ça n'aura pas de sens.
Ça va être vaguement constitutionnel, ce truc, non?
En tout cas, c'est contraire à l'organisation de l'Europe. Alors après, on peut toujours changer les traités, mais enfin, c'est un petit peu compliqué. Autant aller vers une définition de la présence virtuelle et la définition d'un bénéfice imposable, parce que imposer des sociétés à l'impôt sur les sociétés sur quelque chose qui n'est pas leur bénéfice quand elles sont en perte et les imposer sur le chiffre d'affaires, c'est complètement aberrant en réalité.
Ouais, on voit la France, on voit l'Allemagne qui sont leaders, bon, puis il y en a d'autres qui bloquent nécessairement. Le plus dur, ça va être quoi? D'obtenir une position commune des États membres, justement? compter sur l'Irlande, le Luxembourg. Kevin Eshraghi, Arnaud Ponce.
Bah, je pense qu'effectivement.
Faber Novel, allez-y.
Je pense qu'effectivement, quelle que soit la solution choisie, il va falloir qu'on ait une harmonisation au niveau de l'ensemble des pays de la communauté. Parce que sinon, il y aura toujours un endroit où fuir, où s'implanter pour réussir. Alors, cette question de l'établissement stable virtuel, c'est sûrement une solution, à mon avis, assez intelligente. Je mélange un peu toutes les réponses, mais j'attendais. Et sur la question des petites entreprises, en fait, la particularité des entreprises du numérique, c'est que elles commencent à réaliser des profits à partir d'un certain seuil qui arrive quand vous avez un certain nombre d'utilisateurs dans votre réseau. Et donc, tant que vous n'avez pas atteint ce seuil, vous n'êtes pas profitable, et ça fait partie du modèle qui du coup est soutenu par les capital risqueurs, que de dire on va investir énormément pour pouvoir faire croître ces entreprises et puis après générer des profits. Donc effectivement, si on impose une taxe sur le chiffre d'affaires et qu'on de l'autre côté on n'arrête pas de prêcher pour avoir des géants numériques européens, mais finalement c'est deux choses qui sont en contradiction et on n'arrivera jamais à atteindre ce
objectif. Arnaud, on va pas y arriver. Je sais pas si la volonté politique est toujours au rendez-vous. Bon, parfois on peut en douter, vous l'avez tout à l'heure dit, expliqué. Mais là, imaginons qu'il y a un début de volonté politique unique. Là, on va se heurter à des tas de problèmes de viabilité des entreprises, des problèmes de juridiques également. C'est impossible cette histoire.
Oui, et puis j'aimerais bien aussi qu'on rappelle quelque chose d'important, c'est que on parle des PME, mais enfin, faut comparer ce qui est comparable. C'est-à-dire que Amazon est en concurrence avec les acteurs de la grande distribution en France. C'est ça, concrètement. On n'est pas concurrent face à des PME. On parle des joyeux de l'économie, de l'économie française, que sont les Leclerc, les Carrefour, etc., Système U, qui eux payent trois fois plus d'impôts, ont trois fois plus trois fois plus d'employés, deux fois moins de chiffre d'affaires, et je pense que les impôts, je préfère pas le savoir. Et ces gens-là sont en concurrence face à Amazon. Amazon, ils ont commencé, ils voulaient être les plus grands libraires du monde, ils sont devenus les plus grands e-commerçants du monde, et là, ils veulent devenir les plus grands retailers du monde, les plus grands distributeurs. Et notamment alimentaires. C'est pour ça qu'ils ont lancé Amazon Go.
Donc, au final, les GAFA vont-ils passer à la caisse? La réponse, Arnaud Ponce, allez d'un mot chacun.
À terme, dans certaines proportions.
Ouais, et on fera d'autres émissions des décodeurs de l'écho, parce que j'ai l'impression qu'on va se reposer la question dans trois mois. Bénédicte Perrol, ils vont passer à la caisse ou pas ces GAFA?
Ils finiront par passer par la caisse.
Quand?
C'est le plus vite possible.
Oui, ben, d'accord. Voilà. Une réponse très très précise, mais bon, voilà. En tout cas, c'est un souhait de votre part. Emmanuel.
Ils passeront à la caisse. Mais la fiscalité s'adapte toujours. Avec un délai qui n'est pas celui, encore une fois, du business, mais la fiscalité s'adapte toujours.
Kevin Eshraghi.
Pas tout de suite pour moi. Il va falloir repenser en profondeur. Notre modèle de taxation pour pouvoir le faire.
Et l'avocat Vincent Renaud ?
Voilà, tout à fait. Il faut une vision de voir comment on doit faire, mais oui, ils passeront à la caisse quand on aura cette vision.
Ah, bon, très bien. Donc, on se reverra, je vous promets. Les décodeurs de l'écho, on se reposera une question. Alors, un jour, ça sera Google va-t-il payer ses impôts ? Une autre fois, Apple va-t-il... Bon, très bien. On se revoit vite avec les décodeurs de l'écho. Merci à tous. Arnaud Ponce, délégué général de la Fondation Digital New Deal. La députée Bénédicte Perrol, députée du département de l'Allier, La République En Marche, spécialiste des questions de fiscalité à la Commission des Finances. Emmanuel Lechypre, éditorialiste économique à BFM Business. Kevin Eshraghi, qui est analyste chez Faber Novel, société de conseil, donc spécialisée dans les géants du net notamment. Et puis l'avocat fiscaliste Vincent Renaud du cabinet Stéline et Associés. Merci. À très bientôt avec les décodeurs sur un autre sujet, bien sûr.
Les décodeurs de l'écho sur BFM Business.